9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun. Connaissez-vous les néonicotinoïdes, mots barbares mais réels, pesticides à l'origine de la mort de millions d'abeilles? De nombreux débats et reportages leur ont été consacrés avant le vote d'une loi en 2016 actant leur interdiction en France. En 2018, oui, mais voilà, depuis 2018, les dérogations se suivent car certaines filières n'arrivent pas à s'en passer et les insectes continuent de mourir de manière inquiétante. Cette disparition, 8 fois plus rapide que celle des mammifères, est aujourd'hui considérée comme la 6e extinction des espèce de l'histoire. Un documentaire diffusé demain soir sur Arte fait un état des lieux peu optimiste de la situation. La réalisatrice de ce documentaire est avec nous, Miyuki Aramaki. Vous êtes journaliste et la co-auteure de ce documentaire, Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes. Stéphane Foucard, vous êtes journaliste au Monde, auteur du livre Enquête et Le Monde de Vin Silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes, paru en 2019 et qui a été le point de départ de ce documentaire. Et vous faites partie des intervenants interrogés dans ce film. D'abord peut-être rappeler, Stéphane Foucard, ce qu'est un néonicotinoïde.
Alors les néonicotinoïdes, c'est une famille d'insecticides extrêmement puissants, hein, probablement les insecticides les plus puissants jamais synthétisés par l'homme, et qui sont utilisés depuis le milieu des années 90 en Europe, d'une manière un peu particulière, parce qu'ils sont utilisés en enrobage de semences, c'est-à-dire en fait, ce qu'on plante dans la terre, les graines qu'on plante dans la terre sont enrobées du toxique, et la plante, quand elle pousse, s'imprègne totalement de ce toxique tout au long de sa vie. Ce qui veut dire que tous les tissus de la plante, hein, les racines, la tige, les feuilles, le pollen ou la fleur, tout est imprégné par cet insecticide.
Ça signifie que même si on les lave, on dit toujours il faut laver les aliments avant de les consommer à cause des pesticides, là ça ne sert à rien.
Alors pour les cultures qui ont été traitées comme ça, oui, ça ne sert à rien.
Ouais. Tout un chacun peut s'apercevoir de la disparition des insectes. Et vous commencez d'ailleurs comme ça le documentaire avec ce que vous appelez le test du pare-brise.
Tout à fait. Voilà, il y a quelques décennies, n'est-ce pas, quand vous partiez en vacances, vous rouliez des kilomètres, évidemment, il fallait s'arrêter chaque X heures pour nettoyer son pare-brise. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui a totalement disparu. Et quand on en parle aux gens qui ont en effet 40, 50, 60 ans, tout le monde dit « Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. »
Moi, je me souviens très bien.
Voilà.
Ces petits insectes.
Et ils étaient considérés comme une nuisance, donc évidemment en tant qu'être humain c'est pratique, on n'a plus besoin de nettoyer sa voiture et son pare-brise le long de la route des vacances, mais en fait c'est malheureusement le syndrome d'une disparition dramatique de ces petites bêtes.
Évidemment il y a des conséquences, on va en parler, mais Miyuki Aramaki, pourquoi d'abord avoir voulu réaliser ce documentaire? Est-ce que vous aviez d'abord été bousculé par le livre de Stéphane Foucard?
Oui, le point de départ de ce documentaire, c'est vraiment le livre de Stéphane Foucard, les chiffres qui sont exposés à l'intérieur, et ce désir en fait de faire un film sur un thème environnemental qui est important, dont on parle régulièrement. Vous l'avez cité par rapport aux abeilles ou par rapport à des disparitions d'oiseaux par exemple, mais où on avait envie aussi à travers ce livre et on avait l'impression qu'il donnait une image plus globale de la thématique, non seulement du constat de la disparition, mais aussi des causes et des explications de pourquoi on en est là, alors que la science a prouvé depuis des années que c'est un problème.
Il y a une chose, quand on fait un livre, et un livre enquête, on a des tas d'intervenants, parfois qui parlent sous couvert de l'anonymat, ou qui ne parlent pas directement. Quand on fait un film, en revanche, il faut des intervenants face caméra. Donc, est-ce que vous avez repris les mêmes intervenants, et est-ce que vous avez réussi à les convaincre?
Une partie, oui, des intervenants du livre de Stéphane Foucard ont accepté de participer. Nous, on a aussi été plus loin, notamment en interviewant l'inventeur des néonicotinoïdes, qui est donc un scientifique japonais qui n'avait jamais parlé à la presse occidentale, et qui est un monsieur qui défend son travail, n'a pas beaucoup de remords. Lui considère que qu'il a fait avancer et la science et l'agriculture, parce que, et c'est vrai, à l'époque, quand il l'a inventé, le néonicotinoïde était un progrès par rapport à la fumigation de pesticides qui a elle aussi des dangers.
On a beaucoup entendu parler de cet insecticide tueur d'abeilles dans les médias. Dans votre documentaire, on apprend plus concrètement comment les abeilles meurent de manière très lente, assez affreuse. Explication de Béatrice Robrol-Marie, apicultrice et présidente de l'ONG Terre d'Abeilles, et de Jonathan Lugren, entomologiste.
Ces effets que les scientifiques ont découverts, qui s'appellent subletaux, c'est-à-dire qui ne génèrent pas la mort immédiate des abeilles, mais une mort lente.
Elles ne retrouvent plus leur chemin. Elles ne peuvent plus réguler la température de la ruche. Elles oublient comment être des abeilles.
C'est l'Alzheimer des abeilles. Elles vont, par exemple, aller butiner les pétales de la fleur de tournesol, butiner des fleurons qui sont fanés. Et puis, elles vont se frotter les antennes, se frotter l'abdomen, avoir comme des convulsions, prises de tremblements. Et on les voit en train de butiner et tout d'un coup, hop, s'effondrer, par exemple, sur la feuille de la fleur de tournesol. Et puis descendre et puis tomber jusqu'au sol et agoniser.
Stéphane Foucard, est-ce que le combat contre ces pesticides tueurs d'abeilles a réussi à percer auprès du grand public ?
Alors, probablement pas complètement, sinon on n'en serait pas, là, on n'en serait pas à redonner à nouveau des dérogations d'usage à ces produits en France, qui est un des premiers pays à les avoir interdits. Ce qu'il faut peut-être dire à propos de l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'on parle beaucoup des abeilles, parce que les abeilles ont des représentants humains auprès de nous. C'est-à-dire il y a des gens qui tirent parti de l'activité des abeilles, les apiculteurs qui produisent du miel, louent leurs ruches pour la pollinisation, etc. Mais ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est que les abeilles, le problème des abeilles, c'est simplement la partie émergée de l'iceberg. Les abeilles sont probablement les insectes qui sont les plus résilients à ces produits, parce qu'elles sont organisées dans des grandes colonies, des grandes structures sociales qui ont des capacités d'adaptation, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas des papillons, des bourdons, des cires, enfin de tout le reste qui disparaît et dont on ne parle finalement jamais.
Mais il y a toute la chaîne alimentaire en réalité qui est touchée. Vous prenez l'exemple du rouge-gorge. Bon, pour un rouge-gorge, pour nourrir ses petits, il lui faut des tas d'insectes qu'il ne trouve plus.
Oui, il lui faut 700 insectes pour survivre et nourrir ses enfants. Et c'est l'un des problèmes de la disparition des insectes qui est facile à comprendre. Mais au-delà de la chaîne alimentaire, il y a le problème de la pollinisation, il y a le problème du nettoyage du filtre des cours d'eau, par exemple, la décomposition des animaux morts. Enfin, tout ça, ce sont des services gratuits qui sont rendus par les insectes.
Reste avec nous sur Europe 1, on marque une pause, on revient dans un instant.
Vous pouvez y faire le tour du rond-point.
Ou chiner un 33 tours.
Tenter un tour de magie.
Ou encore faire le tour de la question.
Mais question émotion, rien ne vaut un tour de France.
Le Tour de France 2022 sur Europe 1, c'est un journal complet dans Europe Matin.
Richard Virenque comme consultant, des points sur l'étape du jour.
Et de nouveau un journal complet dans Europe Soir.
Rendez-vous tous les jours sur Europe 1, europe1.fr et votre appli.
À tous ceux qui font glisser leur couteau sur le bord du pot de Nutella pour découper l'opercule. Aux maniaques qui grattent les petits bouts d'alu doré pour qu'il ne reste vraiment rien. Et à ceux qui, à la fin du pot, raclent tous les bords aux doigts. Ben oui, pour pas gâcher.
Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le pot de 1 kg de Nutella, soit 3,62€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 10 juillet, prix payé en caisse 5,49€, modalité sur intermarché.com.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Tous les produits que vous venez d'entendre ont été fabriqués en France. Sur la grande boutique d'Amazon, trouvez ce que vous cherchez parmi plus de 500 000 références fabriquées en France. Et ça va faire du bruit.
Les soignants, vous les soutenez, vous les admirez. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui vous disent merci. Car en donnant votre sang, vous les aidez à faire ce qu'ils ont toujours fait, sauver des vies. Rejoignez le mouvement Donneurs de sang, tous soignants. Prenez rendez-vous dès maintenant sur le site de l'établissement français du sang.
Chaque jour, des millions d'hôtes accueillent des voyageurs chez eux avec Airbnb. D'ailleurs, vous aussi, vous pourriez compléter vos revenus en louant votre logement. Vous hésitez encore à vous lancer ? Alors, nous avons mis en place une protection complète pour que vous puissiez accueillir des voyageurs en toute sérénité. Cette protection, c'est AirCover. Et elle vous permet d'être protégé à chaque fois que vous accueillez des voyageurs. Comme ça, votre logement et vos objets sont couverts et vous êtes tranquille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airbnb.fr/aircover pour les hôtes.
Alors ça, c'est pour la brasse, elle pour le crawl, celle-là pour le papillon. Non, attends. Elle, c'est pour le crawl et elle pour le papillon.
À moins que ce soit l'inverse.
C'est pas parce que pendant les soldes chez Cdiscount, il y a de grosses réductions sur nos piscines qu'il faut acheter toutes nos piscines. Entrez dans le grand bain avec les soldes chez Cdiscount. Profitez de réductions jusqu'à moins 50% sur des milliers de produits. Cdiscount, pour une vie pas Cdiscount.
Soldes jusqu'au 19 juillet inclus sur les produits signalés, voire conditions sur le site.
Leclerc.
Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Ça sent le pain chaud.
Bah, normal, ils cuisent du pain toute la journée chez Leclerc.
Regarde-moi ces baguettes trois meuniers. Au blé français, cultivé dans le respect de l'environnement.
Et pour trois baguettes de 250 grammes achetées, la quatrième est offerte.
Ça sent vraiment la bonne affaire.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 5 au 10 juillet. 411 sur nos 633 magasins réalisent des fournées toute la journée. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes. Documentaire qui sera diffusé demain soir sur Arte. Nous sommes avec Miyuki Aramaki. Vous êtes, je le rappelle, la réalisatrice. Et Stéphane Foucard, journaliste au Monde, auteur de l'enquête qui a amené à la réalisation de ce documentaire. Combien d'années de travail pour vous, Stéphane Foucard?
10 ans.
10 années.
Ouais.
C'est plus rapide de faire de la télé en général. Vous avez mis combien de temps?
2 ans, on va dire.
Mais c'est un vrai documentaire scientifique. Comment avez-vous pu vérifier chaque information?
Nous, on s'est beaucoup basé sur le travail de Stéphane. Comme il l'a dit, il a passé 10 ans dessus. C'est un vrai journaliste scientifique. Nous, c'est pas notre spécialisation. En télévision, on est plutôt des réalisateurs. Et donc, pour la partie, voilà, l'épreuve scientifique, je m'en remets à mon camarade.
Mais à la fin du documentaire, vous précisez que les propos tenus dans ce film s'appuient sur des études scientifiques publiées et consultables sur Internet. Pourquoi cette précision a-t-elle été nécessaire?
Le consultable sur Internet, vous voulez dire? C'était pour justement les gens qui trouvent que notre documentaire soit à l'air d'aller dans ce qu'ils pensent ou qui voudraient le contredire, pour que ces gens puissent savoir voilà, comment trouver les éléments sur lesquels on s'est appuyé, sur lesquels on... les preuves, ou en tout cas les études qui atteignent ce qu'on avance dans ce documentaire.
Parce que ça a été contredit, évidemment, quand vous avez travaillé là-dessus, vous êtes aperçu à quel point les études scientifiques étaient contredites par les géants qui vendent ces insecticides.
Bien sûr, mais c'est ce qui arrive à chaque fois que vous mettez en cause la sécurité d'usage ou l'utilité d'un produit qui représente des milliards d'euros de chiffre d'affaires pour des grandes entreprises. Ça a été le cas pour la cigarette, ça a été le cas pour le changement climatique et la responsabilité de la combustion du pétrole, du gaz, du charbon, et c'est évidemment le cas pour la responsabilité de l'agrochimie dans l'effondrement des populations d'insectes auxquelles on assiste aujourd'hui.
Alors les insecticides tuent les insectes, mais entraînent également la disparition de toute une biodiversité et d'une économie. Exemple, au Japon, vous avez tourné au Japon, au lac Shinji, où dans les années 90, des poissons très appréciés des Japonais ont disparu en un an. Une seule année, tout a disparu. Vous avez rencontré un pêcheur, il s'appelle Masaaki Fukada.
Au lac Shinji, on faisait de gros chiffres d'affaires grâce aux éperlans. À une époque, un seul filet remplissait le bateau. Rien que des perlans. En 1994, les éperlans ont tout à coup disparu. Cette disparition a complètement transformé le lac. J'en ai fait une dépression. Je n'avais jamais vécu ça auparavant.
Stéphane Foucard.
Oui, je crois que c'est un des passages les plus forts du film, en fait, où ce vieil homme raconte un petit peu le bouleversement auquel il a assisté en 93-94, quand toute la pêcherie du lac s'est effondrée. On parle de plus de 300 tonnes par an de poissons qui étaient ramenés. La pêcherie était gérée de manière durable. Hein. Chaque année, pourvoyait énormément de poissons. Et vous posiez la question tout à l'heure de, voilà, des preuves, de la véracité de ce qu'on raconte. Ce témoignage, en fait, il est issu d'un travail qui a commencé avec une étude scientifique japonaise qui, elle-même, a documenté le fait que c'est bien l'utilisation d'une petite dose d'imidacloprid dans cette préfecture en mai 1993, qui est la cause directe et unique de l'effondrement de la pêcherie quelques mois plus tard.
Mais on voit très bien, dès les années 90, que l'enquête scientifique est menée, et depuis...
Alors, oui et non. Parce que c'est ça qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on réalise parfois les choses avec retard, et en particulier sur cette histoire du lac Shinji et de la pêcherie qui s'effondre. Les événements se déroulent au moment de l'introduction de l'imidaclopride, donc l'un de ces fameux néonicotinoïdes en mai 1993, mais la publication scientifique n'intervient qu'en 2019, donc 25 ans plus tard. Mmh. Et avant 2019, ces pêcheurs du lac Shinji ont vu leur pêcherie s'effondrer sans avoir la moindre idée de ce qui s'était produit.
Il y a l'alerte incontestable sur la disparition des insectes, mais il y a aussi tout un secteur économique qui dit ne pas pouvoir se passer de ces produits. Je parle évidemment d'une très grande majorité des agriculteurs. Vous êtes allé à la rencontre d'un agronome italien, s'appelle Lorenzo Furlan, qui a fait des études comparatives sur la longue durée entre des parcelles sous insecticides et d'autres sans traitement. Et les résultats sont spectaculaires.
Dans 99% des parcelles que nous avons suivies, semées depuis des décennies, il n'était pas nécessaire d'utiliser un néonicotinoïde. Mais il n'était pas nécessaire d'utiliser un autre insecticide. En fait, il n'y a jamais eu besoin du moindre insecticide. Point final.
Le même travail, en fait, a été fait au Canada, sur le soja, ou de la même manière. On se rend compte que dans 95% des cas, ces produits ne servent à rien puisqu'il n'y a pas les ravageurs contre lesquels ils sont censés lutter sur les parcelles traitées.
C'est inadmissible que pour un risque de 1%, on traite l'ensemble du champ avec un impact environnemental élevé, des coûts élevés et aucun bénéfice pour l'agriculteur et encore moins pour la communauté.
Stéphane Foucart, si cela ne sert à rien, comment expliquer que l'ensemble des agriculteurs dits conventionnels disent ne pas pouvoir s'en passer?
Alors c'est beaucoup de la force de vente, hein. C'est beaucoup parce qu'on vend ces produits et qu'on a des bons arguments pour les vendre aux agriculteurs qu'ils continuent à les utiliser, en tout cas à les utiliser aussi massivement et de cette manière-là. Il faut bien comprendre, ce sont des produits qui sont en réalité des assurances. Ce ne sont pas des produits qui sont utilisés pour lutter contre un ravageur lorsque le ravageur survient sur la parcelle. C'est un petit peu nous, les profanes, l'idée qu'on se fait de l'utilisation de l'agrochimie. Quand l'agriculteur voit un ravageur, eh bien, il utilise le produit.
Voilà. C'est... On est sûr de ne pas avoir de ravageur.
Absolument.
C'est la garantie de ne pas avoir de voyageurs. Aucune firme agrochimique n'a souhaité répondre à vos demandes de tournage. Les arguments ?
Oh, les arguments, ils étaient assez basiques de dire voilà, qu'ils ne sont pas le principal vendeur, qu'il faut s'adresser à leur syndicat, à leurs représentants, qu'ils sont là pour ça. En gros, la plupart des entreprises n'ont même pas vraiment répondu. Mes mails sont juste tombés dans l'oubli.
Que font les agences réglementaires ? Que fait le commissaire européen aux pesticides ?
Officiellement, ils interviennent. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là aussi, il y a du lobbying. Les agences réglementaires mettent en place des tests. Il faut des années et des années pour déjà déterminer comment les tests peuvent être développés, quelle est la bonne dose de pesticides à autoriser ou pas. C'est énormément de travail et pour ça, il faut aussi des spécialistes au sein des institutions européennes qui comprennent quels sont les enjeux derrière. Et vous parliez des effets sublétaux au début de l'émission, avec la mort de ces abeilles qui est lente, qui n'est pas immédiate. C'est des effets qui sont beaucoup plus difficiles à prouver. Et donc, du coup, il faut que les tests soient adaptés à ces effets sublétaux.
Alors, on a vu les effets sur les insectes, sur l'homme. Il y en a ou pas ?
Il y a très peu de données, en fait, sur l'effet de ces néonicotinoïdes sur l'homme. Les biomarqueurs, c'est-à-dire les indices de l'exposition des populations humaines n'ont même pas été développés. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de mal les épidémiologistes ont beaucoup de mal à travailler sur des cohortes humaines pour déterminer les effets possibles de l'imprégnation. On commence à avoir des indications sur le neurodéveloppement, le développement du cerveau des enfants in utero, hein, lorsque leur mère est exposée, et sur certains cancers, en particulier le cancer du foie.
Merci Stéphane Foucart, merci Miyuki Aramaki. Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes, c'est à voir demain soir à 20h50 sur Arte, c'est absolument passionnant. Ça fait un peu peur aussi, hein. Le constat est pas terrible. Documentaire co-réalisé avec Sylvain Lepetit et Sébastien Séga. Dans un instant, restez bien avec nous. Culture Média continue avec notre invité Jean-Baptiste Martignon qui apporte le dessert, qui apporte surtout une toute nouvelle émission de Voyage sur C8. A tout de suite sur Europe 1.
Olivier Benkemoun.
Culture Média.
Sur Europe 1.